Oh là là, mon cher Loïc, je te dis
qu'on... Oh là là, mon cher Bernard!
On manque pas d'actualité. Non. Là, faut que tu fasses le point avec nous là sur le Venezuela, parce que ça chauffe énormément là-bas, et on essaie de comprendre. Et sois bon vulgarisateur comme tu l'es.
Ben écoute, je vais essayer. Mais d'abord, ce qui se passe, c'est que la Russie s'est rangée du côté de Maduro.
Maduro, le président.
Le président. Le pré...
Ouais. Le président, dire de gauche. Hein, c'est bon, ça. Le président de gauche.
Moi, je pense pas qu'il soit de gauche. Je pense que c'est juste un dictateur qui a de la propagande de gauche.
Mais... Ben, en tout cas. Puis il y a l'autre qui s'est auto-déclaré président, qui est le président de l'Assemblée nationale.
Exactement.
Bon.
Alors, les États-Unis et puis plein de pays autour du Venezuela se sont rangés du côté du président de l'Assemblée, du Parlement.
Voilà. Dans le Canada.
Juan Guaido. Dans le Canada.
Voilà.
Exact. Donc, il y a le Brésil, la Colombie, le Pérou, l'Argentine, qui sont de ce côté-là. Et qui disent, effectivement, Monsieur Maduro n'est pas le président du Venezuela. C'est l'ex-président. Et les élections étaient frauduleuses.
Voilà.
Il y a l'Europe aussi qui dit ça. L'Europe dit, effectivement, les élections étaient frauduleuses, mais il faudrait qu'il y ait de nouvelles élections. L'Espagne en particulier, qui joue un très grand rôle dans la région. Donc, d'un côté, les États-Unis, les alliés qui disent, c'est vrai, M. Maduro ne doit pas être président du Venezuela. Et, l'Europe ne reconnaît pas encore le président de l'Assemblée, du Venezuela, du Parlement, comme véritable président, mais ils ne sont pas loin.
D'accord.
Ça, c'est dans un coin. Dans l'autre coin, tu as Cuba, tu as la Bolivie, la Russie et la Turquie qui soutiennent l'actuel régime, le régime du président Maduro. Maintenant, il faut que je dise aux gens des choses. Écoute, j'ai entendu toutes sortes de reportages avec des gens qui disaient « Oh, c'est un complot impérialiste, les Américains... » Oui, oui. Puis je t'ai entendu hier avec Luc Lavoie disant « Effectivement, les Américains sont en train de préparer le chemin d'une invasion. C'est une vieille recette qui s'en veut prendre. » Mais...
On ne peut pas être sûr que c'est ça qui se prépare, mais ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. Sauf que ce régime-là, ce n'est pas du tout le régime d'Allende. On n'est pas là du tout. C'est un régime hyper corrompu et hyper incompétent. C'est, je te le rappelle, le pays le plus riche en pétrole du monde entier.
Oui.
Il y a des taux de décroissance cette année de 17%. 17% de décroissance. L'année dernière, 16%. Ça rétrécit.
Tu veux dire l'économie est en profonde récession.
Profonde récession.
Et il y a une hyper inflation, là, genre 10 000%. Là.
Non, 1 million.
L'argent ne vaut plus rien.
C'est rien du tout.
Ils sont obligés de se promener avec des barouettes pleines de monnaie pour aller acheter une pinte de lait, genre.
Et comme je te l'expliquais hier, les États-Unis restent le premier fournisseur du Venezuela et son premier client.
Oui.
Donc, il n'y a pas de complot impérialiste derrière ça. Par contre, Maduro et son équipe ont fait des investissements de milliards de dollars dans toutes sortes d'équipements de pétrole, etc., des installations pétrolières qui n'ont jamais été complétées. Pour deux raisons. Parce qu'il y a eu beaucoup d'incompétence dans la gestion de ces installations et parce que aussi il y a eu beaucoup de corruption.
Oui.
Maduro est un homme corrompu. Autour de lui, sa famille est corrompue. Donc, les Vénézuéliens se retrouvent avec une situation épouvantable. Dans la rue, au Venezuela, gens ne mangent pas.
Oui, c'est ça, ils ne mangent pas, puis on se retrouve dans un contexte de guerre civile.
Guerre civile. Il y a 2 millions de Vénézuéliens qui sont sortis, qui sont des réfugiés, qui sont sortis du pays parce qu'ils n'ont plus rien.
Alors là, moi, je veux que tu me parles des militaires. Qu'est-ce qu'ils font, les militaires? Parce que l'armée vénézuélienne...
Maduro a été très astucieux. Il a donné aux militaires la gestion de toutes les usines, de toute la distribution alimentaire. On est en période de pénurie. Il a fait ça il y a 2 ans.
Donc,
il a mis de son côté l'armée.
L'armée qui peut nourrir, qui peut se nourrir et nourrir les familles.
Celles qu'elle veut. Gens qu'elle veut.
Mais les leurs,
Les leurs, en tout cas. Et c'est pour ça que l'armée est du côté de Maduro pour le moment. Remarque que tu as eu une rébellion. Lundi, il y a un groupe de 27 soldats qui s'est soulevé dans une caserne au nord de Caracas. Ça a été immédiatement arrêté, cette petite rébellion.
Ça a été maté
très, très facilement. Mais tu sais, on se demande où ça s'en va. Moi, ce qui m'a fait très peur ce matin, c'est d'entendre que Maduro avait demandé aux diplomates américains de quitter le pays. Il leur a donné 72 heures. Et les États-Unis ont dit non, Monsieur Maduro, vous êtes... Je cite l'ex-président du Venezuela. Donc, vous n'avez pas l'autorité pour expulser nos diplomates.
Et ça va mal se terminer, cette affaire-là.
Alors ça, j'aime pas ça, ce genre de... Là, tu vois bien que...
Non, parce que là, tu crées les conditions pour que Maduro fasse arrêter l'ambassadeur américain. Tu comprends?
Et ça donne une excuse aux Américains pour intervenir.
Et voilà.
Et t'as les Russes qui ont dit, écoutez, ça va mener à un bain de sang. Ça, ils ont peut-être raison là-dessus. Et ils disent, écoutez, seuls les Vénézuéliens peuvent décider de leur sort. Oui, en théorie. Sauf que malheureusement, ils ont investi, les Russes, énormément d'argent au Venezuela. Ils ont fait des exercices militaires aussi avec les Vénézuéliens. Le gouvernement de Maduro s'est rapproché des Chinois. Le gouvernement américain aime pas ça.
Voilà.
Et donc, forcément, les conditions sont vraiment là pour que les Américains interviennent.
Tout à fait.
Et, tu sais, en général, je suis très sympathique aux gens qui se défendent, qui défendent la liberté de leur pays. Mais j'ai beaucoup de difficultés à être sympathique pour le gouvernement de Maduro. À cause de sa corruption et son incompétence. Et c'est épouvantable ce qui arrive là.
Non, puis c'est une dictature maintenant. C'est une dictature déguisée en démocratie.
Exactement.
Mais ce n'est plus une démocratie.
Non.
OK. On en a parlé hier. On fait ça vite. Donald Trump qui a dit « Moi, je vais aller prononcer le discours de l'État de l'Union, même si la présidente de la Chambre des représentants
ne
veut
pas. »
C'est ça qu'il avait dit hier. Ouais. Puis toi, tu me dis « Écoute, imagine-toi la scène où il décide de rentrer dans la Chambre des représentants, même si Pelosi ne veut pas le voir. » Et là...
Ben là, Pelosi lui a envoyé une lettre où elle dit, noir sur blanc, qu'elle ne voulait pas l'inviter tant que le gouvernement serait fermé. Et Trump, dans un tweet hier soir, a dit qu'aucune tribune ne pouvait remplacer la Chambre des représentants et donc qu'il n'irait pas. Il ne ferait pas de discours à la nation.
Donc,
il n'y a pas d'endroit tant que le gouvernement serait fermé. Là, je me dis, mais c'est incroyable.
Non, mais attends un peu. Hier, là, corrige-moi si je me trompe, mais hier, à un moment donné, il cherchait un autre endroit pour faire le discours.
Oui.
Et là, il a dit, ah, finalement, je ne le ferai pas parce que si je le fais, il faut vraiment que ce soit dans la Chambre des représentants.
OK. Là, je me dis, attendez, je me trompe peut-être, mais c'est la première fois que Trump recule sur quelque chose d'aussi symbolique depuis qu'il est au pouvoir.
Ben,
Ça a l'air d'une défaite.
C'est pas arrivé souvent.
Ça a l'air d'une défaite là-dessus. J'ai bien hâte de voir ce que ça va avoir comme résultat parce que là, il paraît faible et c'est mauvais pour lui là-dessus.
Tu as raison, c'est pas arrivé souvent. Rapidement, en une minute, l'ex-premier ministre de l'Écosse, grand héros du mouvement indépendantiste, Alex Salmond, qui a été arrêté, là.
Oui, c'était le président du Parti nationaliste écossais.
Ouais.
Il avait démissionné au mois d'août parce qu'il y avait des rumeurs d'agression sexuelle. Écoute, il vient d'être arrêté. 14 arrestations. Il y a 14 chefs d'accusation, plutôt.
Dont
tentative de viol et agression sexuelle. Lui, évidemment, dit qu'il est complètement innocent, mais c'est vraiment un dur coup pour lui. De manière en réverbération pour le parti indépendantiste aussi, parce que il l'a dirigé pendant 20 ans, ce parti. Et il a été premier ministre de l'Écosse en 2007 et 2014.
Tout à fait. Puis c'est lui qui était là
lors du référendum.
J'ai dit le premier, mais en fait, c'est lors du référendum sur l'indépendance. C'était vraiment lui le chef des forces du oui, hein, comme on le dit. Ils l'ont perdu, rappelons-nous, 55-45. Mais écoute, moi j'étais en Écosse au moment du vote, là. Puis écoute, Salmond, c'était un héros. C'est un héros, ça. Il y en a qui disaient que c'était le René Lévesque de l'Écosse. Mm-hmm. Imagine-toi aujourd'hui.
Oui, c'est à peu près ça que ça fait. Imagine, à l'époque, René Lévesque qui aurait été arrêté pour agression sexuelle et tentative de viol.
Imagine-toi. Toute une dégringolade. Mon cher Loïc Tassé, je te remercie.
Je
on se reparle demain.
À demain.
Oui, absolument. Et dans un instant, on va on va parler un petit peu de l'histoire de ce livre que le Canada vient d'acheter. C'est un livre qui appartenait à Adolf Hitler et un historien, l'historien Jean-François Nadeau, nous en parle.